Vous avez pris l'habitude d'utiliser ces quatre mots, ces mots que j'appelle des mots pièges à éviter, jamais, toujours, juste et petit. Découvrez pourquoi ces mots comportent des pièges et comment s'en sortir, bien sûr. Je m'appelle Pascal Kionkion, votre coach thérapeute, et je vous accompagne semaine après semaine pour que vous viviez votre vie en mieux. Bonjour les heureux, bonjour les heureuses, et comme je l'ai dit de temps en temps, les moins heureux, les moins heureuses, et je suis ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous d'aujourd'hui, et pour être dans la transparence avec ce que j'apprends régulièrement aux personnes que j'accompagne, que je coach, je ne suis pas en forme aujourd'hui, vraiment j'ai pas le moral, en plus d'être fatigué, ça arrive même à ceux qui sont en fonction d'accompagnement, et je ne veux pas vous... faire miroiter de fausses réalités. Là, c'est pas la forme. Et j'ai quand même choisi d'enregistrer ce rendez-vous aujourd'hui parce que ça fait partie de mes actions bonheur que de prendre le temps d'enregistrer les rendez-vous. Ce matin, même si j'étais pas en forme, j'avais pas le moral, j'ai pris mes baskets, mon pantalon, mon survêt et je suis allé marcher. Je suis rentré. Bon, aujourd'hui, c'est une journée où j'ai préféré ne pas manger, ne pas déjeuner ce matin, ne pas déjeuner ce midi, plutôt faire la sieste pour essayer de récupérer des ressources. Et puis, j'ai passé du temps à travailler pour vous préparer ce matériel aujourd'hui. Et je vous encourage aussi dans cette même démarche, quand vous n'avez pas la forme, de prendre conscience de cette réalité et de ne pas, encore une fois, vous mentir à vous-même, ce qu'on appelle l'intégrité. J'aurai l'occasion, je pense, d'y revenir ultérieurement dans quelques semaines, parce que c'est important d'être dans la réalité de soi, dans l'authenticité avec soi, parce que c'est un des meilleurs moyens d'avancer, tout simplement. Voilà. Alors, pour aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des actions qui me procurent du bonheur, notamment, parmi elles, celle qui consiste à être avec vous dans ce podcast. Quatre mots pièges à éviter. Je les ai dit dans l'introduction, il s'agit du mot « jamais »,« toujours », »,« juste » et « petit ». Alors pourquoi ces quatre mots sont-ils des pièges dans notre langage ? C'est pas systématiquement des pièges, j'aurais pu vous dire c'est pas toujours des pièges, je me suis même pas rendu compte que j'aurais pu profiter de la brèche pour aller employer le mot toujours. Donc ces mots ne sont pas systématiquement des pièges, mais dans la plupart des cas, ils le sont. Et je voudrais l'aborder en prenant en considération ce que j'appelle la plupart des cas. D'accord ? Quand on dit jamais, toujours, on est généralement dans l'exagération. On est également en train de mettre les pieds dans l'irrationnel. Il est très très rare, exceptionnel, qu'une chose n'arrive jamais. Et il est très rare qu'une chose arrive toujours. En même temps, en disant ça, je ne parle pas de la réalité naturelle qui nous entoure, parce que la loi de la gravité fonctionne toujours. Il en est de même pour la loi d'attirance, pour l'effet papillon, et d'autres lois qui régissent notre fonctionnement, la loi de l'effet cumulé. Donc, en fait, il y a des choses qui fonctionnent toujours ou jamais, et qui sont des lois. Des lois naturelles, je parle pas des lois des humains. Parce que chez les humains, on n'a pas cette capacité à faire preuve d'une constance qui nous conduit à être dans un toujours ou dans un jamais. Et quand je dis que ces deux mots, jamais et toujours, font partie de ces quatre mots pièges à éviter, je les mets en relation directe avec notre réalité quotidienne, d'humain, d'incarné, et pas avec des lois naturelles. Parce que c'est vrai que si vous jetez un stylo, que vous lâchez, il tombera toujours au sol, sauf si. Et c'est juste là qu'on arrive dans des situations qui vont se rapprocher du rationnel. Quand quelqu'un dit « ça tombe toujours sur moi » ou « c'est toujours à moi que ça arrive » ou bien « je fais jamais partie de ceux qui sont choisis pour ceci ou pour cela, ça ne m'arrive jamais à moi », on est dans une approche irrationnelle, dans une surgénéralisation abusive, et c'est valable dans les deux cas. Vous avez remarqué que j'ai groupé, dès le début de ce sujet, les deux mots « jamais » et « toujours ». Je les mets dans la même famille. Il existe en français une expression « ne jamais dire jamais ». D'ailleurs, j'ai vu qu'elle existait aussi en anglais. Mais je ne dirais pas de ne jamais dire jamais. Je dirais de le dire à bon escient. Et c'est pareil pour toujours. De les utiliser à bon escient. Il nous arrive d'utiliser ces deux mots, jamais, toujours, avec une bonne volonté, avec une décision de manifester de l'affection, de la tendresse, de l'amour à quelqu'un en disant « tu pourras toujours compter sur moi ». Je ne serai jamais déficient quand tu auras besoin de moi. Mais en fait, ça ne dépend pas de nous. Il est possible que la personne puisse ne pas compter sur nous, même si on voulait qu'elle puisse compter sur nous. Il est possible qu'on fasse preuve d'une déficience, même si on aurait voulu ne pas être déficient, parce qu'il y a des paramètres qui dépassent le cadre de notre pouvoir d'humain. Or, jamais et toujours, met en défiance notre pouvoir d'humain. La prise de conscience de notre propre finitude, de la limite qui est attachée à notre nature, est nécessaire quand on fait appel à ces deux mots, jamais et toujours, que j'appelle être des pièges, parmi les quatre mots pièges à éviter. Alors d'abord, en m'arrêtant sur jamais, c'est un mot qui, comme toujours d'ailleurs, est attaché à un préjugé. Un préjugé est une image préconçue, c'est-à-dire que on ne l'a pas encore vue, mais on la conçoit avant même de la voir, en disant « ce sera comme ça ». Comme si on était Madame Irma avec une boule de cristal et qu'on pouvait prédire ce qui allait se produire à l'avenir. Ce qui se passe d'ailleurs quand certaines personnes que j'accompagne me disent « mais je pourrais jamais lui dire ça, parce qu'il prendra mal ». Voyez la boule de cristal. Je suis en pouvoir, en maîtrise et en connaissance de ce qui va se produire. Par conséquent, je juge avant l'événement. C'est un préjugé. Et, par voie de conséquence, je programme mon inconscient de manière à ce que, en situation, il ne fasse pas appel à telle et telle ressource, mais qu'il déclenche automatiquement un processus qui sera un processus de pensée, qui entraînera un processus d'émotion et un processus d'action automatisé. Donc, au bout de quelques temps, je n'ai même plus à réfléchir à la situation parce qu'elle se met en mouvement sans même qu'on ait à prendre la conscience d'une posture, d'une direction à prendre, d'une action à poser, d'une émotion à ressentir. Jamais est un moyen de s'enfermer dans un préjugé. Et le deuxième élément justement que je voudrais aborder autour de jamais, mais comme toujours d'ailleurs, les deux termes ont le même impact, c'est qu'ils limitent, ils enferment. Ils nous conditionnent à voir les choses selon ce que l'on a préjugé, ce que j'ai dit il y a quelques instants. Laissez-moi prendre deux exemples. Le premier, je ne suis jamais sélectionné. Et le deuxième, je n'ai jamais de chance. Dans ces deux cas, on est dans une limitation qui enferme et qui nous conditionne à voir les choses comme ça, comme quelqu'un qui n'est pas sélectionné ou qui n'a pas de chance. Je n'ai jamais de chance. Ça veut dire que, par voie de conséquence, je vais réduire le nombre d'expériences dans lesquelles j'aurai la perception, dans le deuxième cas, de la chance. Alors que si je changeais de manière de croire et que je me disais « je suis quelqu'un qui a de la chance », eh bien, je développerai une sensibilité et une manière de voir les choses qui fait que je me dirais « là, j'ai de la chance, j'ai de la chance, j'ai de la chance ». Dans ce cas-là, il nous incombe, en responsabilité, de changer le programme pour choisir de regarder les choses autrement. Et je vous proposerai tout à l'heure, d'ailleurs, d'y réfléchir avec même une mise en situation qui va vous impliquer vous-même. Troisième élément, on a dit le premier, c'est préjugé. Le deuxième, c'est quand ce sont des mots qui nous limitent, qui nous enferment. Troisièmement, c'est que l'on parle faussement. On est en train de dire quelque chose qui n'est pas vrai. Mieux vaut être dans la vérité que dans la vanité. C'est-à-dire qu'on va, comme si on parle et que ça n'a de puissance que d'un petit souffle, quoi. Ça ne produit aucun fruit. C'est improductif. Et en ce sens, je me rapproche de la démonstration, je dirais même, l'explication de Don Miguel Ruiz dans les quatre accords Toltec, qui incite à adopter une parole impeccable. Une parole impeccable est une parole qui produit du fruit, qui produit un impact, qui partage de la vie, qui transmet de la vie. Par conséquent, quand je parle faux en disant « mais ça m'arrivera jamais », de toute façon, je suis en train de m'enfermer, de me limiter et de parler faux parce que je ne sais pas si ça m'arrivera. Et il est possible que ça me soit arrivé, mais que, à cause de la croyance que ça ne m'arrivera jamais, je n'ai pas vu la chose se produire devant moi. J'ai pensé, avec conviction, préjugé en me limitant, que ça n'était pas pour moi. Et je suis donc passé à côté d'une opportunité. Je peux prendre un autre exemple. Il m'arrive toujours des tuiles. Ou je tombe toujours sur des cinglés. Exemple qui m'est venu de quelqu'un qui me parlait de ses relations conjugales, en couple, relations amoureuses. Je tombe toujours sur des cinglés. Est-ce que c'est vrai? Pourquoi est-ce vrai? Je vous laisse réfléchir parce que je ne vais pas vous donner la réponse, mais pourquoi serait-ce vrai que cette personne tombe toujours sur des cinglés? En quoi ça peut tenir la route? En plus, c'est emploi du jamais et toujours nourrissent une thèse de la déresponsabilisation. C'est pas moi. Et on se décharge sur les événements ou sur les autres en se disant, ben voilà, c'est, je tombe toujours sur des cinglés, il m'arrive toujours des tuiles, ou les deux exemples que j'ai pris tout à l'heure, je ne suis jamais sélectionné, je n'ai jamais de chance. Vous entendez que on est dans une déresponsabilisation, c'est à cause de l'autre, c'est à cause de l'événement, je ne suis pour rien en fait. Si ça tenait à moi, j'aurais veillé à ce que les événements se produisent autrement. Mais madame, monsieur, qui vous, que vous soyez, vous savez que vous n'avez pas main mise sur les événements. Vous ne pouvez pas faire en sorte que vous soyez toujours sélectionné, ou que vous ayez tout le tour dans la chance, ou que vous n'ayez jamais de tuiles. Je fais exprès de les prendre à l'envers, ou que de ne pas tomber toujours sur des cinglés. Alors, il y a quand même, même si je suis assez général, et les personnes que j'accompagne savent, parce qu'il y en a pour lesquelles j'ai travaillé sur des aspects de ces croyances qui sont des croyances limitantes, en plus d'être des paroles infécondes, loin d'être impeccables, et pour lesquelles j'encourage vivement à adopter la parole impeccable, je dois dire que ce n'est pas parce que j'ai été, on va dire, percuté par un chauffeur, voilà, je prends cet exemple, que je ressens de la colère. En résumé, l'événement ou le ressenti émotionnel de colère n'est pas en lien avec l'événement. Et on a beau essayer de se battre dans tous les sens pour essayer de faire croire que si, parce que s'il m'avait parlé autrement, ou s'il ne m'était pas rentré dedans, ou s'il était arrivé à l'heure, ou qu'il ne m'avait pas fait renverser son verre de vin sur la veste et juste avant mon entretien d'embauche, je n'aurais pas été triste, en colère, déçu, honteux, etc. Tout cela est faux. Je vous renvoie vers le podcast que j'ai enregistré maintenant il y a quelques années, le mystère des émotions. Tout cela est faux. Notre cerveau, notre fonctionnement, nos croyances nous font croire que c'est comme ça que ça marche. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous avons tout intérêt à apprendre comment les choses se fonctionnent en nous pour en tirer le meilleur profit. Alors, oui, nous avons la liberté de fuir et de surtout ne pas chercher à comprendre comment nous fonctionnons. Seulement, nous pouvons prendre conscience qu'en même temps, nous sommes responsables de ce dysfonctionnement ou de cette méconnaissance sur notre fonctionnement, à supposer qu'il ne soit pas dysfonctionnement. Dans le cas où ce n'est pas parce que le chauffeur m'a percuté que je ressens de la colère, une lecture rationnelle voudrait davantage me diriger vers « je ressens de la colère parce que j'ai interprété l'événement du chauffeur qui a percuté mon véhicule » comme. Et si je l'ai interprété comme ça, je sais parce que je suis complètement conscient d'être responsable de mon interprétation qui est connectée à mes préjugés et par conséquent à mes croyances. Dès qu'on est en train de parler de préjugés, on est en train de titiller les croyances. Un jugement ne se fait qu'à partir d'une croyance. Par conséquent, si vous voulez mieux vivre les événements que vous vivez, ben vous avez compris qu'une lecture plus rationnelle est plus intéressante. C'est vrai qu'elle nous place en responsable et que ça peut être désagréable d'avoir cette impression de culpabilité parce qu'en fait, je ressens de la colère parce que c'est à cause de moi et c'est pas à cause de quelqu'un d'autre. Mince alors. Je ressens de la honte parce que je ressens de la honte et que c'est à cause de moi. C'est moi qui déclenche la honte en moi. C'est vrai que de prime abord, c'était beaucoup plus confortable de trouver un bouc émissaire quelqu'un d'autre qui était responsable de ce que je ressentais, comme si je subissais la situation. Mais un regard rationnel me conduit forcément à corriger cette croyance. Je suis responsable. Je ressens de la colère parce que je. Je ressens de l'amour parce que je. Je ressens de la honte parce que je. D'ailleurs, il y a quelques années, j'avais pris mon véhicule et j'étais allé à un rendez-vous. Je me gare en faisant un créneau. Et il y avait une voiture devant, une voiture derrière, dans cette copropriété où je suis allé, et j'entends « Oh, je freine, qu'est-ce qui se passe ?» Je repasse la première, j'avance et je sors le véhicule, je fais le tour, et je me rends compte qu'il y avait un... Vous savez, c'est une sorte de potelet assez bas, là, assez gros mastoc avec une partie un peu plus plane au-dessus, qui était là et que je n'avais pas vu, et qui avait tordu le soubassement de la portière de mon véhicule. Donc en fait, c'est même pas la portière, c'est vraiment le bas du véhicule. Je sais pas comment ça s'appelle, le bas de caisse. Et là, vraiment, j'étais embêté. Je me dis, mince, quoi, je suis... 100% responsable de ce qui s'est passé. Je n'ai pas envie d'aller voir le mécano pour aller payer des centaines d'euros pour réparer la voiture. J'étais dégoûté. Voilà. Émotion, sentiment, ressenti, le dégoût. Et je pars de mon rendez-vous après coup et ça m'a vraiment travaillé. Je me suis dit, finalement, dans les semaines qui ont suivi, je me suis surpris à souhaiter que quelqu'un percute mon véhicule par la droite. En me disant, si quelqu'un me rentre dedans, eh bien, je n'aurai pas à payer la réparation du véhicule. Et j'ai cherché à maintes reprises, non pas en exprès, mais il arrivait plusieurs fois que des personnes aient failli me rentrer dedans dans les semaines qui ont suivi. Alors mon réflexe automobiliste a fait que j'ai freiné, j'ai évité, j'ai klaxonné, et puis après je me dis, mince, hein, mais non, j'aurais bien aimé qu'il me rentre dedans. Mais vous voyez que finalement il y avait ce dilemme entre ma responsabilité d'automobiliste qui a été programmée pour éviter les accidents et les accrochages, qui faisait que finalement je parais les risques qui ont été multiples, ceci étant, parce que j'étais plus attentif que précédemment aux risques ou aux souhaits d'accident, parce que je l'ai souhaité, mais en même temps espérer qu'on me rentre dedans. Donc il y avait deux lois qui s'opposaient l'une à l'autre, mais vous imaginez que si on m'était rentré dedans, je ne me serais surtout pas dit « Mince, oh là là, je suis en colère parce qu'un chauffeur me rentrait dedans. » J'aurais été ravi que quelqu'un me rentre dedans par la partie droite en espérant qu'il bute aussi sur le bas de caisse de mon véhicule. Finalement, l'événement était effectivement neutre et j'aurais pu m'en réjouir. Presque sortir de la voiture en disant « Monsieur, vraiment, je vous remercie. » Parce que... enfin, j'espère que vous êtes assuré, bien entendu. Parce que j'avais pas envie de sortir le fric pour remplacer ma portière, vous voyez. Et réparer le bas de caisse. L'événement est neutre. Si souvent que vous aurez besoin de vous en rappeler, l'événement est neutre. Chantez-le comme une chanson s'il le faut. Mais faites en sorte d'enregistrer le fait que l'événement est neutre. Il sera toujours neutre. Ce qui a pour conséquence que vous serez toujours responsable de votre manière de percevoir les événements. Et là, même si j'ai employé le mot « toujours », je l'ai fait de manière rationnelle. Votre responsabilité ne peut jamais être enlevée de votre personne. Vous avez entendu que j'ai employé le mot « jamais » d'une manière rationnelle. Alors, propose déjà, vous pouvez travailler sur vous en repérant les jamais et les toujours que vous utilisez, qui sont irrationnels, en prenant le temps de vous observer, d'entendre vos pensées, vos ressentis émotionnels, et à chaque fois vous percevez que vous avez utilisé un jamais ou un toujours de manière irrationnelle, abusive, eh bien de vous dire « je suis responsable de ma lecture des événements ». Je sais être responsable de ma lecture des événements. Je ne suis pas responsable de tout ce qui m'arrive, mais je suis systématiquement toujours responsable de ma manière de vivre ce qui m'arrive. Alors si je reprends les deux exemples que j'ai employés tout à l'heure, je ne suis jamais sélectionné, comment pourriez-vous y travailler? Alors déjà, en disant « je suis responsable de ce qui m'arrive, je suis toujours responsable de ma manière de vivre ce qui m'arrive ». Et puis vous pouvez aussi changer de croyance. Et là, je vous laisse le temps de travailler seul chez vous pour chercher comment vous pouvez changer de croyance. Vous pouvez me faire des propositions dans les commentaires de la retranscription de ce podcast pour que, si vous avez des doutes, je puisse vous envoyer un petit retour, bien sûr, sachant que j'ai veillé à employer le mot « petit » pour inaugurer la suite, ou pour augurer la suite de notre échange. C'est pareil pour la chance, hein. Je sais déclencher ma chance, provoquer ma chance. Je sais que la chance est le nom que l'on donne aux opportunités que l'on choisit de saisir. Ça peut être une nouvelle croyance que vous pourriez adopter, croyance que j'ai postée il y a quelques jours sur Facebook et Instagram, sachant que quotidiennement, je mets des pensées, non pas des citations, mais des pensées, des choses auxquelles je pense pour vous aider à développer de nouvelles croyances, à acquérir de nouvelles croyances qui vont remplacer les précédentes sur Facebook, Instagram, soit dans la story, soit dans la publication sur le blog Heureux Présent. Pareil, il m'arrive toujours des tuiles. Vous pouvez travailler sur cet exemple-là pour faire des propositions qui pourront remplacer cette croyance si elle fait partie de votre corpus de croyances. Maintenant, passons aux deux autres mots, juste et petit. Alors, comme pour toujours et jamais, je vais les aborder ensemble parce qu'ils ont aussi à nous apprendre en termes de communauté, en termes de mots qui ont des points communs. Alors, par exemple, je veux juste te demander un service. Bien, je voulais juste savoir si tu voulais sortir avec nous ce soir parce qu'on s'en va avec des potes. Ou je voulais juste te rendre service. Ou bien c'était juste pour aller plus vite. Vous percevez dans chacun des exemples que je viens de mentionner qu'il y a la recherche d'une manière de minimiser, une manière de dire « c'est pas grave, ça passera mieux », que ce soit avec juste ou avec petit. En quelque sorte, la mission consiste à trouver les moyens de faire passer ce qui ne serait pas acceptable si ce n'était pas petit ou c'était pas juste pour. Voilà. On va encore une fois à l'encontre de la responsabilisation, on est dans la victimisation. C'était juste pour ça ou bien... Non mais juste un petit... Voilà. Je vous propose de prendre une direction différente, celle qui consiste à être responsable et pas victime. Celle qui consiste à s'affirmer plutôt qu'à essayer de se cacher derrière des petits motifs et des manières de slalomer, voilà. Pour booster la confiance en soi, qui était le sujet d'il y a 15 jours, si je ne me trompe pas, eh bien... Limitons le nombre de choses petites et justes. C'était juste pour. Ou bien je te passe un petit. Ou bien je... À la question « Pourquoi as-tu fait comme ça ?»« J'ai voulu aller plus vite. » Vous allez rencontrer qu'il n'y a pas le sang. « J'ai voulu aller plus vite. »« Veux-tu un café ?»« Oui, je veux bien un café, ça me ferait plaisir. » »« J'ai pas mis le mot petit. »« Je veux bien un café. » Pour petit et juste, comme pour toujours et jamais, vous pouvez prendre le temps de vous observer et de percevoir avec qui, à quelles occasions, vous exprimez en disant « c'était juste pour » ou bien « je voulais juste » ou bien « je te propose un petit moment, un petit café, un petit service. Est-ce que tu me rends un petit service ?» Repérez avec qui, à quel moment et les émotions que vous ressentez au moment où vous formulez ça. Parce que c'est en relation avec vos émotions. C'est donc en relation avec votre manière de penser. Ça passera mieux si. Je dérangerai moins. Je ne forcerai pas la personne à. Et vous avez l'impression d'avoir le pouvoir de forcer quelqu'un, d'avoir le pouvoir de déranger quelqu'un. Et ça pose question. Parce que réellement, est-ce que vous avez le pouvoir de déranger quelqu'un? Exercez-vous à faire preuve d'assurance, à vous assumer, à assumer vos choix, à être responsable. Vous n'avez plus besoin de vous excuser avec des justes ou des petits, ou de tenter de faciliter le passage avec des petits. Vous êtes là, responsable de vos choix, vous les assumez. Vous acceptez que ça ne passe pas. Vous acceptez qu'on vous dise non. Vous acceptez qu'on n'apprécie pas les raisons pour lesquelles vous avez fait ceci ou cela. Point barre. Quatre mots. Quatre mots révélateurs que vous pouvez utiliser comme jauge de mesure de la confiance en soi, de l'affirmation de soi, de l'acceptation de vivre sa réalité et d'assumer tout ce que vous vivez. Tout. Pas une partie de ce que vous vivez, pas une partie de ce que vous ressentez ou de votre manière de penser, mais tout. Finalement, vous déresponsabilisez vos parents, vos profs, votre patron, vos collègues, vos enfants, votre conjoint, vos potes. C'est vous. C'est votre vie. C'est vous qui avez les mains sur le volant. c'est vous qui faites vos choix. Vous assumez de A à Z et entre nous. Tant que vous n'êtes pas vraiment les deux pieds assis dans cette réalité-là, vous aurez une difficulté réelle pour percevoir un bonheur stable et constant. Ça fait partie des clés du bonheur que de s'assumer, d'assumer, de ne plus donner de responsabilité aux événements et aux autres, et de les prendre soi-même. Parce que, évidemment, quand je suis responsable, je peux agir. Quand je ne le suis pas, c'est à quelqu'un d'autre de le faire. Et si c'est à quelqu'un d'autre de le faire, eh bien, je dois attendre, je dépends d'eux. Par contre, si je suis responsable, je ne dépends de personne. Je peux choisir, je peux construire mon bonheur et vivre ma vie en mieux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Bye bye. Vous savez que vous avez maintenant à aller mettre vos réponses sur les exercices que je vous ai proposés dans les commentaires de la retranscription du podcast. Et puis aller sur les réseaux sociaux pour mettre vos 5 étoiles, vos commentaires. C'est une manière de promouvoir Heureux au présent et de faciliter la recherche de personnes qui, après vous, viendront aller taper quelques petits mots-clés sur les moteurs de recherche pour trouver les moyens de vivre leur vie en mieux.